Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'art et le sport comme moyen de revendication dans le monde arabe. Trois exemples dans cette émission, avec les fresques géantes du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie, les slogans dans les stades de football d'Égypte ou d'Algérie et la tribune des femmes artistes marocaines contre le sexisme. L'expression libre sous toutes ses formes. Une émission que vous pourrez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Islane Sahli.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes artiste plasticienne, vous êtes marocaine et vous avez signé le texte de la romancière Leila Slimani et de la réalisatrice Sonia Terab, un texte qui dénonce le manque de liberté sexuelle au Maroc. Alors la première phrase du manifeste dit que ces auteurs se sentent hors la loi. Vous sentez-vous hors la loi, Islane Sahli?
Alors, se sentir hors la loi est un bien grand mot, je ne me sens pas du tout hors la loi. Mais c'est une manière d'exprimer notre mécontentement face à cette situation. J'estime que la femme doit être libre de disposer de son corps comme elle l'entend et non pas comme la société veut qu'elle le fasse, ou son mari, ou son frère, ou quelqu'un dans la rue.
Est-ce que les lois qui régissent les mœurs aujourd'hui au Maroc vous semblent obsolètes ?
Elles sont obsolètes par rapport à une certaine partie de la population et par rapport à une autre partie, pas du tout, parce que moi j'ai quand même un vrai sentiment que les mentalités au Maroc ont nettement régressé par rapport à lorsque j'étais adolescente. Ma grand-mère était une femme très traditionnelle, d'une famille celle-ci traditionnelle dans la Médina, mais elle avait une ouverture d'esprit, elle était d'une modernité exceptionnel. Donc aujourd'hui, il y a peu de femmes de l'âge de ma grand-mère qui ont cette ouverture d'esprit. J'ai le vrai sentiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé suite à ce 11 septembre 2001 où il a fallu faire partie d'un camp ou d'un autre. En fait, au Maroc, quand j'étais jeune, il y avait très peu de femmes voilées. Et là, quand vous êtes dans la rue, mais tout le monde est voilé, les jeunes, les vieilles, les modernes, les traditionnels, c'est devenu... Je me rappelle d'une fois où je faisais mes études à Paris, je suis rentrée, c'était en 2002, je pense, et j'étais à Tanger, dans la rue, et j'ai eu un choc, en fait, parce que je regardais, j'étais en haut, sur un balcon, et je voyais la rue, les gens qui se promenaient, et pratiquement tout le monde était voilé. Et je n'avais jamais vu ça dans mon pays. Et j'ai senti que quelque chose s'était passé. Donc je pense que les mentalités aujourd'hui ne sont pas forcément prêtes, dans leur grande majorité, à vivre des changements. Au contraire, elles se rattachent encore plus qu'avant à des soi-disant valeurs, quoi.
Est-ce qu'il y a un poids religieux plus important aujourd'hui, et notamment depuis après 2001 ?
Je ne pense pas qu'il y ait un poids religieux plus important, parce que la religion a toujours fait partie de tout Marocain, en fait. Elle a toujours été présente. C'est la manière de la vivre et de l'exprimer qui est différente. L'islam, normalement, est une religion très tolérante et on accepte ce que les autres... on n'est pas dans le jugement, ni dans le... Alors qu'aujourd'hui, non, on nous impose... Moi, j'ai quatre enfants, voilà. J'ai trois filles. Et je sais que quand mes filles veulent sortir dans la rue, si elles sont en short, je me sens un peu gênée parce que j'ai peur de la réaction des autres. Alors que moi, quand j'étais adolescente, j'étais en short dans la rue, j'étais en t-shirt très très court, il n'y avait aucun problème.
Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, l'avortement soit pénalisé comme c'est le cas aujourd'hui, ou aussi les relations hors mariage? Cela donne l'impression de lois qui sont quand même d'un autre temps.
Tout à fait, c'est des lois d'un autre temps, surtout que c'est très hypocrite, parce que je pense que la majorité des gens ne suivent pas. En fait, vous avez vu dans le texte, il y a beaucoup d'avortements qui se font au Maroc. Et beaucoup de filles et de garçons qui s'aiment, j'espère, comme dans tous les pays du monde, et qui ont des envies sexuelles, ce qui me paraît complètement normal et sain, en fait. Oui, donc ce sont des lois totalement hypocrites et obsolètes.
Et comment comprendre la condamnation à un an de prison ferme de la journaliste marocaine Hadja Ressouni pour relations sexuelles, bien qu'elle ait été finalement graciée par le roi? Comment comprendre cette condamnation ?
comment la comprendre, je sais pas. Je ne suis pas très militante à la base. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui veut faire la révolution. Lorsque j'ai signé ce texte, en fait, c'était parce que ça me semblait essentiel par rapport à mes convictions personnelles qu'une femme puisse juste disposer librement de son corps. La condamnation d'un an, je pense que c'est parce que c'est aussi un symbole et que c'est une journaliste. On sait qu'on en parle et donc on a voulu montrer à la société que les lois sont les lois et que ça va pas changer, je pense. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Un an de condamnation pour avoir fait l'amour, c'est horrible en fait. Oui, c'est horrible.
Et en signant ce manifeste, vous n'avez pas peur d'avoir un retour de bâton lorsque vous êtes au Maroc, lorsque vous êtes chez vous ?
Absolument pas. À aucun moment, n'ombre du soupçon de quoi que ce soit qui pourrait m'arriver. J'ai même encouragé mes filles. J'ai quand même une fille de 20 ans et une fille de 18 ans. Je leur ai transféré le texte et je leur ai dit, vous devriez le lire et le signer si vous en avez envie. Je ne sais pas si elles l'ont signé ou pas parce que je trouve que c'est leur vie privée, mais il y en a peut-être une des deux qui l'a fait. Donc j'estime qu'il n'y a absolument aucun danger. On a le droit de s'exprimer au Maroc quand même.
Rizlan Sahli, vous exposiez à Londres du 3 au 6 octobre. Quelle est votre actualité artistique ? Je sais qu'actuellement, vous avez un certain nombre d'expositions liées à l'Afrique.
Oui, en fait, liées à l'Afrique, c'est uniquement parce que je suis d'Africaine, mais mon travail est plutôt sur le corps humain. Et en fait, cette actualité-là de Hajar Rasouni me parle aussi parce que dans mon travail, je parle du corps de la femme et je l'exprime d'une manière, non pas pour choquer ou pour... c'est juste que c'est mon ressenti actuel, c'est de cela dont j'ai envie de parler. Le plaisir féminin fait partie de ce que j'ai envie d'exprimer. Donc mon actualité, en fait, j'ai deux expos à Lugano et à Milan. Je vais exposer aussi dans un musée à Brescia, dans une expo qui s'appelle aussi Africa Now.
Merci Rizlan Sahli.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous êtes artiste plasticienne et marocaine et vous avez signé, je le rappelle, le texte de la romancière Leila Slimani et de la réalisatrice Sonia Terab, texte qui dénonce le manque de liberté sexuelle au Maroc.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
This one, this piece is really amazing because it's a collaboration between Palestinian artists and international artists. We have the Arabic calligraphy, and then we have Himbad's UK famous owl that he does all around the world. And I think it looks amazing. It's one of my favorites, to be honest.
Nous sommes à Naplouse, au nord de la Cisjordanie, plus précisément dans le camp de Balata, en périphérie de cette ville palestinienne. Balata, où 10 artistes se sont retrouvés ces dernières semaines pour peindre des fresques murales. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Eric.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Décrivez-nous ce camp de Balata. Vous êtes allé pour Orient Hebdo. À quoi ressemble-t-il ?
Alors Balata, c'est le plus grand camp de réfugiés de Cisjordanie. Établi en 1950, il devait accueillir 5000 personnes à ses débuts. Mais aujourd'hui, ce sont près de 30 000 Palestiniens qui y vivent. Les services publics sont assurés, comme dans tous les camps de réfugiés, par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les rues sont étroites et animées en journée. Les bâtiments sont souvent pas très hauts, assez sommaires. Façades et cages d'escalier sont démunies ou alors agrémentées de dessins, de graffitis, de posters qui rappellent le combat palestinien pour un État indépendant. Des représentations assez lourdes relèvent Wala Kamiye, une jeune habitante de Naplouse qui s'est portée volontaire pour participer à ce projet.
J'ai toujours vu des photos des martyrs, des écritures pour dire que ce mec, il est mort, l'autre, il a été bombardé ou trucs comme ça. Et c'est dingue. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir des projets artistiques qui reflètent un petit peu la joie. On ne devrait pas être enterré par la guerre, on ne devrait pas être enterré par la tristesse. C'est très important d'avoir de la joie dans la ville et dans notre vie.
C'est donc cet environnement que le projet Paint Balata, peigner Balata en français, voulait changer, Guilhem ?
Oui, Balata est un quartier défavorisé, donc réputé peu sûr, et ses fresques murales sont une façon d'essayer d'améliorer le quotidien des habitants du camp. Jalal Abdelhadi est l'initiateur de ce projet, citoyen américain. Son père est palestinien, il a fait plusieurs séjours dans les territoires palestiniens. Il a finalement monté l'organisation non gouvernementale Beyond Us, au-delà de nous, pour mener ce projet Paint Balata.
There's a lot of problems in this camp.
Il y a beaucoup de problèmes dans ce camp. Nous ne pouvons pas tous les régler. Enfin, peut-être qu'on pourrait si la communauté internationale travaillait de concert. Mais aujourd'hui, la situation ne va pas changer en une nuit. Mais ce qu'on peut changer rapidement, c'est ce que les gens voient dans ce camp et leur environnement. Nous pensons que l'art a le pouvoir de soigner, qu'il a le pouvoir de changer les vibrations d'une communauté avec les couleurs. On essaye d'apporter notre petite pièce au puzzle pour améliorer le ressenti des gens dans ce camp.
Ce projet est-il également une façon de provoquer la rencontre de deux univers bien différents, celui de l'art de rue et celui d'un camp de réfugiés ?
Alors oui, avec ce projet, Jalal Abdelhadi voulait faire entrer l'art dans le camp, un lieu qui en est souvent dépourvu. Il voulait apporter une ouverture aux habitants de ce camp et a donc fait appel à des artistes locaux, mais aussi à des personnalités reconnues dans le monde du street art, de l'art urbain. Imbad, un artiste britannique, le Canadien Chris Dyer ou encore le franco-britannique Seb Toussaint. Seb Toussaint mène depuis 2014 un projet qui trouvait pleinement sa place dans Paint Balata.
Je peins des murs dans le monde entier sur un projet qui est le mien, que je fais depuis 6 ans, qui s'appelle Share the Word Project, partager le mot, et qui consiste à aller dans des camps de réfugiés, des bidonvilles, des favelas, et de peindre des mots que les gens choisissent. Donc en fait, sur chaque fresque que je peins, il y a un mot que quelqu'un a choisi, et le but, c'est de savoir ce que des gens très marginalisés veulent exprimer, en fait, des gens qui ne sont pas souvent très audibles en société, et qui ont pourtant plein de choses à nous apprendre, plein de choses à dire, à raconter. Et donc je leur demande toujours pourquoi ils choisissent tel ou tel mot. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et voilà, à chaque fois je reste un mois dans chaque lieu. Et c'est pour ça que je suis venu à Balata il y a un an et demi. Et là je suis de retour avec d'autres artistes pour peindre encore plus de fresques ici dans le quartier.
Alors Seb Toussaint a peint 6 fresques au cours de son séjour cette fois-ci. Celle qu'il était en train de peindre lorsque je l'ai rencontré était autour du mot farah, joie en arabe, un mot choisi par une adolescente du camp.
Guilhem, il s'agit là donc d'un projet international qui trouve une déclinaison à Balata, mais Paint Balata se veut-il aussi un projet centré autour de la culture palestinienne ?
Oui, c'est pour ça que la présence d'artistes palestiniens est essentielle aussi aux yeux de Jalal Abdelhadi. L'échange avec les habitants du camp et les artistes locaux permet de dégager des thèmes, des motifs qui se rapportent aussi à l'histoire du lieu et de ses habitants. Les réfugiés de Balata viennent en grande partie de familles qui, jusqu'à la création de l'État d'Israël, vivaient à Jaffa, le quartier historique de Tel Aviv, au bord de la mer. Et cette origine géographique, eh bien, elle se retrouve dans les fresques, souligne Jalal Abdelhadi.
Une de nos fresques est un oranger, parce que Jaffa exportait les meilleurs oranges du monde. L'oranger permettait de recréer ce lien. Et là-bas, Chris Dyer, un artiste canadien, dessine un poisson. Un poisson qui ne peut pas rejoindre la mer. Parce que c'est ce que ressentent beaucoup de gens ici. Ils viennent d'une communauté du bord de mer, et beaucoup ici n'ont jamais vu la mer.
Alors désormais, une quinzaine de fresques sont disséminées sur les murs de Balata. Ce style d'art contemporain n'est certes pas du goût de tous, mais beaucoup d'habitants apprécient l'initiative. Et le succès dépasse le camp de Balata, le camp d'Aïda à Bethléem aimerait mener le même.
Peigner Balata, du street art au cœur d'un camp de réfugiés palestiniens, c'était votre reportage en Cisjordanie. Merci Guilhem Deltey.
Merci.
Orient Hebdo sur RFI.
Paul Dietschy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, agrégé et docteur en histoire, professeur d'histoire contemporaine et directeur du centre Lucien Febvre à l'Université de Franche-Comté. Quelle est la place aujourd'hui du football arabe ou au sens large Maghreb et Moyen-Oriental sur la scène internationale.
Sur la scène internationale, il brille davantage par ses joueurs, hein, comme Mohamed Salah par exemple, ou un certain nombre de joueurs d'origine maghrébine dans différents championnats en Europe, que par ses équipes nationales, évidemment, qui finalement peinent encore à atteindre le très haut niveau et à vraiment s'imposer dans les grandes compétitions internationales. Bon, il est aussi influent, évidemment, dans les grandes instances internationales. On l'a vu au sein de la FIFA, avec parfois des personnages un peu sulfureux, et puis également, évidemment, avec la question du Qatar, qui me semble être un bon choix dans le sens où c'est le Moyen-Orient, enfin, qui reçoit une Coupe du Monde, mais qui aurait pu être mieux distribué. Il semble que la FIFA veuille, avec une Coupe du Monde à 48 dès 2022, vouloir un petit peu redistribuer les cartes dans ce cas de figure.
Est-ce que l'Égypte, c'est le drapeau du football en Afrique et aussi au Moyen-Orient ?
L'Égypte est clairement le drapeau à la fois du football arabe et en partie du football africain. D'abord, par antériorité, hein, l'équipe d'Égypte a participé au tournoi olympique dès 1920, a réussi des performances tout à fait intéressantes, hein, se classant quatrième en 1928, et puis a participé aussi à la Coupe du Monde 1934, a été battu au premier tour par la Hongrie, mais très honorablement. Et dès les années 30, vous avez des joueurs égyptiens qui jouent dans des clubs français et dans des clubs anglais. Donc clairement, c'est vraiment le pays qui est en pole position, qui ensuite va être à la tête, évidemment, du mouvement africain, hein, puisque c'est un des pays fondateurs de la CAF, hein, la Confédération africaine de football, de la Coupe d'Afrique des Nations, et surtout un des pays en Afrique dans lesquels, eh bien, vous avez des clubs qui sont de véritables institutions solides, bah, comme Al Ahly ou Zamalek. Et ce qui fait d'ailleurs que ça a été aussi un handicap pour le football égyptien, parce que ces joueurs, eh bien, étaient souvent bien traités, bien payés, hein, avaient une position relativement favorable et donc n'étaient pas tentés par l'expatriation, ce qui a en retour peut-être été préjudiciable à l'Égypte, hein, puisque ces joueurs n'ont pas eu l'expérience pendant très longtemps des grands championnats.
Et le printemps arabe de 2011 et ensuite ce qui s'en est suivi sur le plan politique n'a pas cassé cette dynamique footballistique en Égypte ?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les ultras égyptiens ont été au cœur de ce printemps arabe. Donc, ils sont aussi apparus de manière peut-être un peu plus positive et comme finalement une jeunesse capable non seulement de s'intéresser au football, mais de prendre parti, parfois de manière dramatique. On se rappelle les morts, hein, du stade de Port Saïd en 2012. La passion reste extrêmement forte, hein, et certainement un joueur comme Mohamed Salah, eh bien, peut tirer vers le haut son équipe. Donc, il me semble pas que finalement ces événements aient particulièrement amoindri la passion pour le football qui est chevillée au cœur des Égyptiens.
Vous parliez des ultras, justement, ça c'est un phénomène qui vient d'Europe, mais qui a pris peut-être un courant particulier au Maghreb et au Moyen-Orient.
Oui. Les ultras, c'est évidemment une sorte de transfert culturel, hein, notamment à partir du modèle italien, très coloré, en même temps revendicatif. Et finalement, pour beaucoup de jeunes, hommes bien évidemment, eh bien, le stade est devenu un lieu où on pouvait relativement librement s'affirmer, hein, affirmer une certaine liberté de penser, d'être, de se comporter dans des sociétés très corsetées, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan moral, sur le plan religieux. Et donc, ça a été véritablement un lieu d'expression qui a longtemps été négligé, mais qui est apparu au grand jour, hein, au printemps arabe, et jusqu'à aujourd'hui en Algérie, où beaucoup de mots d'ordre, beaucoup de manières, hein, de revendiquer sont empruntés au football.
Paul Yachi, merci.
Je vous en prie.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain.
Le coq chante.